Florence Hilleret, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous, au lendemain du Festival de Cannes, et c'est surtout pour reparler Palme d'Or, et notamment celle de 79, Apocalypse Now, qu'il avait partagé le cher Coppola avec... voilà, pour le tambour. Mais avant d'en arriver sur la croisette en mai, il s'est passé tellement de choses, et c'est d'où votre bouquin, la BD, Un tournage en enfer au cœur d'Apocalypse Now, par vos éditions Casterman. Je me souviens d'une réflexion du journaliste François Forestier qui disait « Après tant d'années, le film est avalé par sa légende, il reste un chef-d'œuvre boiteux et fascinant. » C'est pas vraiment votre avis, non ?
Chef-d'œuvre boiteux, je ne qualifierais pas de boiteux. C'est une expérience de cinéphile qui me marque encore. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre-là, pour essayer un peu de rendre à ce chef-d'œuvre ce qui m'a donné comme plaisir à le découvrir pour la première version que moi j'ai découvert fin des années 80, quand j'étais étudiant. Et j'ai été marqué par ce film-là. Ça m'a laissé une impression... Je me rappelle encore de la sensation que j'ai éprouvée après la projection. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. J'ai appris petit à petit qu'il y avait eu un tournage, une production un petit peu chaotique.
Un petit peu, vous êtes gentil.
Exactement. Non, mais au fur et à mesure, j'ai accumulé des informations. Et puis j'ai tourné autour du sujet et devenu auteur de bande dessinée. J'ai eu l'opportunité de raconter ça en roman graphique. Et je ne m'en suis pas privé.
Alors, dès la préface, on sent l'homme passionné, pour ne pas dire finalement obsédé, comme finalement le sorcier de la Pavalée.
Exactement, tout à fait. C'est vraiment, j'ai attrapé le virus de ce film-là il y a un certain nombre d'années.
Et ça remonte à quand, ça ?
On va dire, je pense, quand j'avais 19-20 ans, donc je pense en 1989-90. Quoi. Donc ça commence à faire maintenant. Donc c'est bien, il faut maturer un petit peu un certain temps et pour avoir envie de revenir et réexpliquer ça. Puis en plus, c'est vrai que ce sujet-là m'a aussi demandé de travailler et d'adapter mon style habituel de dessin. J'étais obligé de faire un livre qui était en couleur directe alors que je travaillais plutôt en noir et blanc avant dans mon travail de dessinateur et j'ai dû apprendre... La couleur, je sais la faire, mais gérer la couleur sur l'ampleur de ce récit-là, c'était vraiment un challenge pour moi et il m'a fallu quelques années pour y parvenir, en tout cas.
C'est quoi, c'est le fusain ?
Alors, c'est différentes choses. D'abord, il y a un premier ancrage pour le détourage des personnages avec une encre acrylique vert, olive précisément. Et puis après, il n'y a pas de surlignage ni de tour de passage en noir, comme on fait habituellement. Après, il y a un travail de nappes de couleurs à l'aquarelle qui vont teinter l'ambiance de l'image, de la case. Et au final, il y a entre 4 et 5 couches d'épaisseur de crayons de couleurs. Ce qui fait du coup une sorte de lasagne de couleurs comme ça qui rendent la complexité de la couleur de ces plans et de cette fameuse rivière et des personnages et de l'ambiance tropicale du tournage en tout cas.
Parce que finalement, ça fait un côté réaliste et en même temps fantasmé, non ?
L'idée, c'est que je voulais retranscrire dans mon dessin l'ambiance dans laquelle j'étais, qui était une impression, presque comme un trip, en fait. Hein. C'est vrai qu'avec ces nappes de fumigène, ces ambiances un peu éthérées qui restent quand on regarde encore le film, même maintenant, c'est une expérience sensorielle particulière. Donc, je voulais vraiment retracer ça dans mon travail de dessinateur et de coloriste.
Alors, cet rassemblement d'anecdotes, c'est incroyable. Je veux dire, vous aviez des cahiers de vos possibles.
C'est vrai que du coup, le plus dur, ça a été surtout de séparer le bon verre du vrai, parce qu'il y a beaucoup de légendes aussi qui courent sur ce film-là, qui ne sont pas vraies. Surtout à l'heure d'Internet, c'est compliqué, donc je suis allé vraiment compulser tout ce qui avait été fait comme travail même. Vous savez que ce film-là, il donne lieu à des études universitaires aux États-Unis. Il est considéré à l'égal d'un grand tableau, d'un chef-d'œuvre de l'art américain. Et du coup, beaucoup de gens s'y sont penchés. Il y a aussi beaucoup de témoignages de gens qui ont participé à cette aventure-là. Tous les acteurs, les techniciens aussi. Et puis, il y a beaucoup de traces. Donc, on peut aller chercher dans les archives beaucoup d'éléments. Et puis, tout ce qui a été écrit sur le film par différents historiens américains du cinéma.
Vous aviez relu Conrad, Au cœur des ténèbres ?
Je ne l'ai pas relu, je l'avais lu. C'est une adaptation qui est tellement lointaine. C'est pas que de la faute de Cooper, c'est de la faute aussi de John Milius, qui était le premier scénariste. Adaptateur et scénariste du film. C'est tellement transposé, ça a tellement rien à voir avec l'idée principale du bouquin de Conrad, parce que c'est transféré, c'est plus sur le fleuve Congo, on est au Vietnam. Là, il y a en plus une guerre et c'est plus dans le trafic d'ivoire et dans l'ambiance historique du Congo. C'est tellement été transformé et en plus c'était tellement été retravaillé, parce qu'il faut savoir que Coppola réécrivait quasiment chaque nuit soit la fin du script, soit des scènes entières, soit des impros à faire. Donc en fait ça s'en éloignait tellement que c'est une expérience, une improvisation filmée de 300 km de long, parce qu'ils ont imprimé 300 km de bobines pour ce film là évidemment tout n'est pas dans le montage final, mais ils ont imprimé des quantités gargantuesque. C'est l'adjectif qui me vient en tête. C'est vraiment, tout est démesuré à l'échelle du film.
Il y a eu en 1991 le documentaire L'Apocalypse de metteur en scène de Fax Barr et Georges Eganover. Je suppose que vous l'avez vu. Et c'est basé sur les témoignages de Léonard.
Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est difficilement visible en ce moment parce que Coppola organise sa rareté. Il n'est pas présenté sous un jour qui lui plaît, mais c'est la réalité, parce qu'en fait, sa femme à l'époque, comme elle s'en est pas mal sur le tournage, il lui a donné une seconde équipe et une caméra 16, et elle est allée tourner le making-of, ce qui devait être le making-of de l'époque. Ça n'existait pas. Et les bobines tournées ont été abandonnées dans une armoire et puis redécouvertes par le fameux duo de documentaristes anglais qui ont exhumé ce trésor venu des années 70, incroyable, qui racontait le making-of, en fait, le journal de bord. Elle a fait un bouquin, par contre, qui est paru il y a quelques années, qui est son journal de bord du tournage. Mais elle n'avait pas utilisé ses rushs. Et là, on voit en direct les crises que pique sur Coppola, le tournage Coppola, en disant, lorsque son acteur principal a une crise cardiaque et que l'info a été relayée au studio, évidemment, c'est branle-bas de combat, parce qu'évidemment, lui, il a mis toute sa fortune en jeu et il a hypothéqué son ranch de Napa Valley, son vignoble et toute sa fortune qu'il avait accumulée suite au tournage des Parrains. Et il y a beaucoup à perdre. Et lui, il devient fou furieux. Il insulte l'équipe et il sort cette phrase extraordinaire pour l'histoire, dont il n'est pas toujours très fier, en disant, de toute façon, Martin Sheen mourra quand je l'aurai décidé. Voilà, tout est dit.
Mais finalement, il n'a pas mis son veto sur la diffusion.
Non, pas du tout. Dans la mesure où tout mon bouquin, on ne l'a pas fait avec son imprimature, parce qu'il est impossible à contacter. Il a une armée d'avocats, d'assistants. C'est impossible d'y accéder. Donc, ça a été relu par les juristes de chez Casterman, qui ont vu que dedans, il n'y avait rien qui pouvait porter à attaque judiciaire plus tard, à la sortie du bouquin. Donc dans la mesure où on ne le discrédite pas, on ne se moque pas de lui, on ne le ridiculise pas, et qu'on lui fait plutôt je lui fais un hommage, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, le plus sincère possible. Il n'y a pas de raison qu'il... Donc j'espère qu'un jour ça lui arrivera entre les mains. Mais c'est vrai qu'il est intéressé par la bande dessinée, parce qu'il adore notamment un grand illustrateur belge, Laurent Durieux, qui a fait les affiches de ses ressorties avec ses somptueuses versions d'Apocalypse Now. Donc en fait, il a plutôt un œil là-dessus. Mais je pense que quand on parle BD, roman graphique, à des Américains, c'est compliqué. Ils pensent qu'on va venir les critiquer, qu'on va essayer de faire une polémique et qu'on va les tourner en ridicule. Ils sont plutôt extrêmement chatouillés là-dessus. Donc voilà, on a fait 100 de manière à ce que le livre existe.
Vous avez fait les Beaux-Arts à Nantes, et fin 90, vous partez à la Nouvelle-Calédonie, vous allez vivre avec les tribus Kanak. En fait, vous êtes un peu le colonel Kurt dans la continuité.
Au tout petit pied, mais c'est vrai que j'ai ce goût des cultures des tropiques, et de l'ailleurs en tout cas, c'est sûr que... Après, dans ma vie d'illustrateur de livres jeunesse, quand je suis revenu en France, après mon expérience calédonienne, J'ai fait beaucoup de livres sur les cultures du monde, sur vraiment les culturalistes d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un de mes goûts. Et c'est aussi des choses qui m'ont plu dans ce film-là. La manière dont il arrive à filmer et à raconter ce pays rêvé qui est le Vietnam, fantasmé, et qui en fait les Philippines.
Alors justement, on parlait de vos ouvrages. Il y a quand même aussi le Cooper, un guerrier à Hollywood en 2018, à propos de Marianne Cooper, créateur de King Kong, producteur de légende de John Wayne et John Ford. On peut dire quand même que vous êtes cinéphile dans l'âme, et peut-être plus cinéphile américain ou hollywoodien.
C'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma américain. La BD sur Marianne Cooper, c'est un personnage incroyable. Avant tout, c'est aussi un personnage pilote. Plus grand que nature. Enfin, il a été aventurier, espion. Il a dirigé le sud de RKO dans les années 30. Il a été réalisateur de films. Il a inventé un style de films documentaires sur les peuples du bout du monde. Il a été un co-créateur de la compagnie de la Pan America. C'est une vie incroyable. Je ne pouvais pas passer à côté d'un personnage comme ça, parce que j'adore. Juste avant, j'avais traité de la vie d'un autre personnage incroyable, qui est Robert Capa, le grand photographe de guerre. Donc j'aime bien passer du temps avec les personnages
de cette légende. Et justement, comment passe-t-on de l'ancienne Hollywood au nouvel Hollywood?
C'est ça qui est génial. C'est à la fois le personnage de Marianne Cooper était à son époque un aventurier, quelqu'un qui avait des visions et qui modelait son univers proche à la hauteur de ses visions, et qui se donnait les moyens d'avoir cette liberté créative. Et c'est de la même trempe que Coppola. Et comme Capa, ce sont des personnages qui ont révolutionné leur métier, qui ont été des pionniers, des gens qui ont inventé, qui avaient un courage fou. Et qui tous les trois font partie de cette race des géants.
Quatrième de couverture, c'est une déclaration qu'il a faite à la conférence de presse. Et finalement, ça devait faire sourire à l'époque, parce que personne ne se rendait compte de ce qu'il y avait derrière.
Évidemment, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore le recul de ce qu'allait représenter ce film-là dans la filmographie de l'histoire du cinéma mondial. Mais en plus, c'est vrai qu'on ne connaissait pas la totalité de ce qui avait pu se passer dans l'arrière-cuisine aux Philippines et même dans les salles de montage de Californie. Donc c'est vrai que ce qu'il dit, ça nous a paru génial comme quatrième de couverture, parce que c'est vrai qu'il raconte tout. Il a cette phrase incroyable où il explique qu'ils se sont retrouvés dans la jungle aux Philippines, qu'ils étaient trop nombreux, qu'ils avaient accès à trop de moyens, à trop d'argent, et que petit à petit, ils sont devenus fous. Et ça raconte très bien la production de ce film-là, dont il a réussi à se sortir quand même au final de cette folie, et qui sera un grand succès, et qui lui ouvrira d'autres portes pour son futur à lui.
Alors, il y a quelques jours, on a vu le documentaire sur la famille.
Oui, tout à fait.
À Saint-Denis. C'est le dernier chapitre, finalement.
Je parle de Claude Berry dans mon album, où en effet, Claude Berry, bon producteur français déjà à l'époque, a eu le nez creux en achetant les droits de diffusion en Europe du film de Coppola, par l'intermédiaire du frère, la personne dans le documentaire auquel vous faites référence, donc de Paul Rassam, le frère de Jean-Pierre Rassam, qui était vraiment un producteur mythique dans les années 70 en France. Et du coup, c'est vrai qu'il a pris ces droits-là. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont des liens particuliers. Claude Berry était le parrain de Sofia Coppola. Ils ont des liens de famille, ils ont des liens très très forts.
Et Aurore Clément aussi.
Une grande lignée du cinéma, en tout cas.
Alors, la dernière question, c'est à propos des Playmates,
oui.
de Fner.
Oui, tout à fait.
On aurait bien aimé les voir, non?
C'est
pas les faire le choix.
C'est vrai, c'était... Ça me paraissait, c'est presque un truc, c'est presque trop une tarte à la crème. Et puis j'avais décidé de ne pas traiter les problèmes conjugaux de Coppola, et en Je suis resté en dehors de la chambre à coucher parce que ça me paraissait trop facile d'attaquer sous la ceinture et ça me présentait.
Mais même la scène en soi, je veux dire, c'est énorme.
La scène est énorme. Ça raconte aussi la démesure de l'armée américaine présente parce que ces choses-là sont vraiment passées. Il y a des playmates qui allaient faire des tournées auprès des GI et des Boys sur place, comme à l'époque Marlène Dietrich a fait des tournées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, ou en Corée, pareil. C'est vrai que les grandes stars d'Hollywood ou de la pop culture ou tout ça, et venaient encourager les GI. Mais c'est vrai que cette scène incroyable où les GI s'accrochent au pas de l'hélicoptère pour vraiment être encore un peu avec les playmates et finissent par être largués à 15 mètres du sol. Bon, c'est vrai que c'est une scène incroyable.
Et ça va même plus loin, parce que finalement, on brûle de la pellicule. Exactement. À propos des... À cause des playmates.
C'est vrai que, oui, je fais référence à ça. C'est vrai qu'il y a un monteur, dans l'armée de monteurs, qui travaillait jour et nuit dans les locaux californiens lors du montage du film. Il y en a un qui est tombé amoureux d'une des playmates. Et en fait, il a demandé les coordonnées de cette planète-là à Coppola. Et Coppola dit, bon, tu m'en fais. Et un jour, il a dit, bon, c'est pas compliqué. Il est arrivé un matin avec un petit sachet de plastique avec des cendres dedans. Il a posé sur le bureau de Coppola. Il lui a dit, bon, tu vois, là, il y a 4 km de bobine master du montage. Et ça sera comme ça tous les matins tant que tu ne m'auras pas donné les coordonnées de cette fille. Alors, évidemment... La légende ne dit pas s'il a récupéré ça dans son barbecue ou dans sa cheminée. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a assez fait peur à Coppola pour qu'il aille de récupérer les coordonnées de la fameuse planète en question et qu'il les donne à son monteur.
Florent, un grand merci. Oui. Donc, on rappelle un tournage en enfer au cœur de l'Apocalypse, paru aux éditions Casterman. Merci.
Merci à vous.